phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
C'est encore monté d'un cran aujourd'hui.
Now, what you call is a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You fellow, your fellows get clean like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like a shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capular, you're monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well, the end's well. Your ways like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 3 minutes. Vous êtes bien sûr Radio Canu. C'est l'heure.
Ouais, 102.2, la plus rebelle des radios. On va commencer à aller voir ce qui se passe du côté du Mexique en ce début d'année. Ensuite, on ira en Birmanie, dans une petite partie de la Birmanie.
Ensuite, on reviendra un petit peu sur de l'info locale et on parlera hébergement à Lyon.
Ensuite, on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations totale. Ensuite, on ira voir que Veolia nous passe des tartines sur le fait que l'eau est un bien commun. De l'eau, on passera au vin avec des initiatives qui font un petit peu plaisir sur la façon de se réapproprier les vignes. Et puis, on fera un petit conseil de lecture du côté du journal CQFD. Voilà.
Qui veut dire ce qu'il faut détruire.
Voilà, et CQFD.
Dans le journal ami.
Voilà, CQFD-journal.org. Direction le Mexique avec un plutôt bel article qui vient d'un site qui s'appelle lundi.am qui édite un certain nombre d'articles tous les matins du lundi et qui nous parle de ce qui se passe depuis le 1er janvier du côté du Mexique, donc dans pas mal d'états du côté du Mexique. Alors, juste pour vous donner un petit élément de contexte, depuis 80 ans, le pétrole mexicain est nationalisé à travers la compagnie Pemex, et le prix du pétrole dépend d'un barème qui est fixé et décidé par l'État. Alors, il y a eu un projet de réforme énergétique qui a été initié en 2014 par le gouvernement de Peña Nieto, et celui-là, il est parti dans la direction d'un truc génial qui s'appelle la privatisation. Privatisation, bah voilà, la privatisation du pétrole et de la vente d'essence en corollaire. Alors, ça s'est mis en place, évidemment, tu devines, ça s'est mis en place juste là, au 1er janvier 2017. Et dans le discours officiel, eh bien, monsieur Peña Nieto, donc le président, enfin le meneur du gouvernement mexicain, a dit qu'il s'agit de s'ajuster aux tendances naturelles, de la compétition internationale. Contre le maintien artificiel, c'est lui qui le dit, des interventions étatiques. Voilà, donc pour lui, la nature, c'est un peu un retour à la nature, mais pas celle avec des arbres, hein, c'est la nature du marché. Alors donc, du coup, eh ben, ni une ni deux, le 1er janvier, il s'est passé passé que l'essence a augmenté de 20% et que le diesel a augmenté de 16%. Alors, en l'espace d'une semaine, du 1er janvier au 7 janvier, voilà, c'est la date, d'ailleurs, 7 janvier, c'est la date à laquelle s'arrête cet article, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe ces jours-ci, en tout cas du côté du Mexique. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand mouvement populaire où les gens se sont dit, mais attends, on marche sur la tête. Et ils sont rentrés dans des chaînes de magasins, n'importe lesquelles. Alors, par exemple, je te les cite, à Electra, Bodega, Aurrera, Ojo, chez Drahu, Walmart aussi. Et ces chaînes de magasins se sont fait braquer.
Ah.
Voilà, carrément braquer. Ils ont été submergés par des hordes d'insolites honnêtes gens, entre guillemets. Alors, ils ont pris tous ces gens, ils sont rentrés dans le magasin, ils ont pris tout. Les jouets, les réfrigérateurs, les télévisions, etc. etc. Et puis même, il y a un des reporters donc, de lundi.m qui a même vu les taxis finalement qui attendaient et quelqu'un qui hélait le taxi qui rentrait donc avec le téléviseur dans le taxi pour rentrer chez lui. Donc ils ont carrément braqué tout ça et les événements donc, se poursuivent encore a priori, en tout cas dans la première semaine de janvier ça se poursuivait. Et alors il y a eu malheureusement quelques morts puisqu'évidemment il y a eu des affrontements, il y a eu 4 civils et un policier et des emprisonnements à la pelle. Et c'est quand même une espèce de vaste liesse de gratuité torrentielle qui se sont un petit peu abattues sur le Mexique. Alors, comment ça a commencé quand même? Il y a eu des marches et des blocages qui se sont développés à partir du dimanche 1er janvier par rapport à cette histoire donc de l'augmentation annoncée du prix de l'essence. Et puis, en fait, c'est les syndicats, les associations citoyennes qui ont appelé à ces mouvements. Et puis, évidemment, les forces de l'ordre s'en sont mêlées, mais même, il s'est même passé que dans certains affrontements, les forces de l'ordre ont été détenues par les manifestants qui les ont un peu relâchés, mais donc il y a dû avoir des petits passages en force. Et puis lundi 2 janvier, il y a eu des blocages d'autoroutes, de terminaux de combustible, etc. etc. Et puis il y a eu donc cette... donc j'aime bien cette expression, liesse de gratuité torrentielle qui s'est passée. Alors un fait intéressant, c'est qu'au-delà de la simple protestation contre le prix du pétrole, on a pu entendre des revendications plus fondamentales sur le fait que, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans un système un petit peu corrompu. Et dans les manifestations, on a pu entendre parler de Sheeran, des gens qui disaient Sheeran, 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 Sheeran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sheeran, c'est une ville qui a connu quelque chose d'assez incroyable, c'est que le 15 avril 2011, eh bien, les habitants ont viré les délinquants, la police, enfin c'est peut-être un peu la même chose là-bas, alors les délinquants, la police et les politiques corrompus, ils ont foutu tout le monde dehors et ils se sont organisés d'une façon autonome dans cette ville. Donc c'est un peu l'étendard qui a été un petit peu montré au niveau de ces manifestations. Alors qu'est-ce qui se passe
Sachant que peut-être ça vaut le coup de préciser, j'imagine assez facilement que là-bas délinquants, ça veut quand même possiblement dire... gros cartel, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est pas
ça
du
veut
tout,
pas dire. Vous, voilà, il y a pas.
Exactement. C'est
ça,
pas
quoi.
Du tout les habitants qui se sont organisés pour faire des milices.
Oui,
pour,
c'est ça. Ça pouvait laisser penser ça, quoi.
Voilà, c'est ça. Comme on peut voir, si vous allez par exemple du côté de Cambridge, moi j'ai déjà pénétré dans un village où quand tu rentres dans le village, il y a marqué attention, nous sommes organisés en milice et éventuellement on peut vous désinguer si vous êtes en train de faire la délinquance. Non, là c'est vraiment la grosse. L'aspect cartel, l'aspect police et politique corrompu vis-à-vis des cartels. Alors je zappe sur un autre article qui vient plutôt du Monde, le journal. Visiblement monsieur Peña Nieto, il a expliqué jeudi soir pour calmer les esprits qu'en fait le fait d'avoir fait la privatisation, en fait c'était pas ça qui avait fait la hausse des prix, c'est parce que le pétrole a augmenté, enfin, etc. Voilà, Joe l'embrouille. Et puis il a aussi annoncé une baisse de 10% des salaires des hauts fonctionnaires, l'histoire de calmer le truc, mais en fait je suis pas sûr que ça marche très très bien. Alors chose importante, le peuple est avec les évêques, incroyable. Bon, on dit ça pour rigoler un petit peu quand même, mais apparemment la conférence épiscopale a elle aussi demandé au gouvernement de revoir une mesure qui affecte tous les pays, spécialement les pauvres, je cite. Donc les évêques, les peuples, même combat, libéralisme, on t'aura du côté du Mexique.
Et nous allons cette fois-ci du côté de la Birmanie, si je ne me trompe pas.
tout à fait la Birmanie qui fait la une de certains journaux pour des événements pas très marrants. 22 000 Rohingyas sont entrés au Bangladesh en une semaine. Les Rohingyas, c'est une ethnie dont on va parler tout de suite après. Visiblement, à la date du 5 janvier, il y avait plus de 65 000 personnes qui se sont déplacées donc, de la Birmanie pour aller du côté du Bangladesh. Alors cette fois-ci, c'est Basta, le journal Basta, qu'on peut d'ailleurs encourager à soutenir, qui nous explique qu'en Birmanie, il y a donc cette minorité musulmane Rohingya, et qui est donc une des plus persécutées au monde. Alors cette minorité musulmane, elle ne fait pas partie des 135 minorités officielles de la Birmanie, c'est-à-dire que quand on est un Rohingya, eh bien on n'est pas birman, on est complètement apatride, et elle vit majoritairement dans l'état bouddhiste de l'Arakan, qui borde les côtes nord-ouest du pays. Alors le terme même de Rohingya n'est pas autorisé par le gouvernement. Donc il y a des gens qui sont Rohingyas, mais le terme n'est pas autorisé. Eux, ils préfèrent les appeler les Bengalis, en considérant que ces membres sont des migrants qui sont venus du Bangladesh voisin. Donc ces personnes qui sont donc présentes sur le sol birman sont considérées comme des migrants et sont donc des apatrides, puisqu'ils ne sont pas du tout du Bangladesh non plus. Alors, Rohingya apatride, marginalisé, et puis depuis le mois de novembre, victime de persécutions et de violences religieuses récurrentes ces dernières années, c'est l'armée qui va plein pneu, hein, je vous rassure, et on évalue quand même leur nombre à ces Rohingyas à 1,3 million donc, du côté de la Birmanie, ils sont environ un autre million en exil, donc c'est vraiment une minorité qui en prend plein la poire, puisqu'effectivement, donc, je vous le disais, l'armée birmane a lancé en octobre une offensive d'envergure, je cite, avec des raids meurtriers contre des rebelles, contre des postes... Il y a eu des rebelles Rohingyas qui se sont attaqués à des postes frontières et du coup l'armée s'est dit c'est le moment, on va aller leur faire comprendre ce que c'est que l'armée birmane. A priori, il y a des viols collectifs, des meurtres et des tortures. Alors, cette fois-ci, on change de journal avec un édito du Monde adressé à Aung San Suu Kyi, qu'on connaît, puisque c'est la dirigeante de la Birmanie, mais qui a été dans les geôles de l'armée birmane pendant une quinzaine d'années. La Birmanie, d'ailleurs, s'appelait à l'époque le Myanmar. Voilà. Donc, tu m'as fait...
Wow.
Bravo, on a eu chaud. Et qui s'adresse à cette femme, puisque cette femme a donc eu le prix Nobel de la paix, je crois, et quelque part, elle est responsable, indirectement ou directement, de ce qui se passe. Éditoriale du Monde qui dit... Ceci, de l'Afrique du Sud à l'Europe centrale, plus d'un combattant de la démocratie en a fait l'expérience de points. Il est plus facile d'être vertueux dans l'opposition au totalitarisme que dans l'exercice du pouvoir, une fois le dictateur chassé. C'est au tour d'Aung San Suu Kyi, l'icône de la résistance birmane, d'affronter cette épreuve. La terrible répression menée par l'armée de son pays contre la minorité musulmane Rohingya a atteint de telles proportions qu'elle menace d'anéantir le crédit que de celle que les Birmans appellent encore respectueusement « the lady ». Et visiblement, Aung San Suu Kyi, elle n'aime pas du tout qu'on l'accuse de quoi que ce soit. Elle n'a pas tellement envie de dire qu'on trahit son image d'icône. Elle dit « Je ne suis pas une icône, je suis juste une femme politique qui veut la réconciliation nationale ». En gros, elle se transforme un peu comme le Parti Socialiste qui dit « Voilà, moi, j'étais une icône, et puis maintenant que je suis au pouvoir, je suis obligé d'être pragmatique et obligé quelque part de me salir les mains ». Donc ça, c'est pas terrible pour son image personnelle. Mais il faut mettre de côté tout ça. Il s'agit bien de respect des droits de l'homme, des plus fondamentaux, donc du côté de cette Birmanie. Et on peut prendre rendez-vous sur Radio Canu pour en reparler quand on espère que ça se calmera.
Mais du coup, clairement, elle fait plus que botter en touche, quoi.
Elle
dénonce pas, quoi. En tout cas,
elle évoque aussi ce que, d'ailleurs, donc il y a Monsieur Margolin qui est maître de conférence à Aix-Marseille, qui nous explique que de l'autre côté, donc du côté Rohingya, il y a aussi des discours néo-nationalistes, pas forcément très très du meilleur goût, si tu veux. Donc elle est dans cette zone où en fait on se renvoie la balle, et puis elle considère que c'est pas son premier dossier également. Bref, il y a une vague un petit peu floue, c'est l'armée qui s'occupe du nettoyage et il faut juste que ça s'arrête, quoi.
Et on a une idée de pourquoi à la base cette ethnie n'est pas reconnue ou...
Alors, oui, on a une idée. Il faut se référer à d'autres articles. Je crois que si vous tapez Rohingya Bastamak dans Google, sur un navigateur, vous aurez un certain nombre d'exemples. C'est très, très ancien. Même pendant la colonisation anglaise, il y a eu des choses comme ça. Même, il y a un historique aussi dans les années 1400, je crois que j'ai vu passer cette date-là, un historique comme ça d'antagonisme entre cette minorité et les Birmans. Je pourrais malheureusement pas en faire état aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, on se donne rendez-vous un petit peu plus tard dans l'année pour peut-être en reparler dans le détail. On revient en France.
Et plus précisément du côté de Lyon, et on va parler hébergement. Et alors, justement, je sais pas si dans les... Pardon, j'ai un cheveu qui était collé sur mon micro, c'est dégueulasse. Je sais pas si dans les autres villes de France, c'est la même situation qu'à Lyon, mais niveau hébergement d'urgence, à Lyon, on est plutôt mal loti, hein, c'est le cas de le dire. Alors,
est-ce qu'on est mal loti parce qu'il n'y a pas de place du tout, il n'y a pas un seul logement vide, il n'y en aurait pas, par exemple, deux dans ma rue, deux énormes maisons dans ma rue, non, on va dire ça comme ça.
Des logements, il y en a des tonnes, hein, des gens à la rue aussi, mais ça, c'est pas une équation que les autorités semblent faire depuis tant d'années. Non, plutôt, ils ont voulu créer des dispositifs pour piéger les gens. Hein. Et en général, quand on parle hébergement d'urgence et piège, hein, ça concerne tout d'abord les migrants, et c'est un nouveau dispositif qui a été créé par l'OFI. L'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, organisme, si je me trompe pas, créé par Nicolas Sarkozy, hein, qui porte un nom quand même assez clair, quoi. Tout comme ce dispositif créé qui s'appelle Départ. Hein, voilà.
C'est explicite au moins.
C'est assez explicite. Alors, c'est comme c'est assez moderne, hein, chez eux. Départ, ça s'écrit pas comme l'orthographe classique, ça s'écrit D majuscule PART. Voilà, c'est un truc.
Oui, donc c'est caché, en fait.
Voilà, c'est moderne, c'est voilà. Sûrement le ministre de l'Intérieur qui a envoyé un texto à un type en disant faites-vous voilà. un dispositif départ. Et voilà. Donc voilà, c'est à peu près le seul moment où ce dispositif dira vraiment son nom. En gros, le principe est assez simple et c'est d'un cynisme à vomir. Alors vous avez sûrement entendu parler du mouvement de solidarité qu'il y a eu dans les écoles de l'agglomération, où vraiment un bon nombre d'écoles avaient proposé et avaient hébergé des familles qui étaient dans leur école, de les héberger quand elles étaient à la rue. Hein, du coup, pour le coup, une équation assez simple, genre on a des locaux qui sont pas utilisés la nuit, on a des familles qui sont dans des conditions juste horribles, on aurait qu'à juste les dépanner pour être un peu plus à l'aise. Suite à ça, les autorités décident de ne pas laisser les écoles s'occuper, mais de reloger les familles à l'hôtel. Une fois les familles relogées à l'hôtel, alors attention, on précise que les hôtels en question, ce ne sont pas des hôtels de luxe, ce ne sont pas des hôtels où même vous penseriez aller, ce sont plutôt des genres de sous Formule 1, des hôtels miteux, dégueulasses, tenus par des patrons qui font bien du beurre sur ces relogements d'urgence.
Ce genre d'hôtels qui peuvent voir un incendie se dérouler dans leurs murs, par exemple, comme on a pu voir à Paris, quoi.
Exactement. Où les familles s'entassent dans une ou deux chambres, et chambre le plus souvent miteuse. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour dépeindre, pour pas créer de fausses rumeurs, genre les migrants se retrouvent relogés à l'hôtel. Oh, attention. Non. Bref, une fois à l'hôtel, un agent de l'OFI leur rend visite pour leur dire que leur solution prend fin dans 3 jours, mais que s'ils se présentent au 22 rue de l'Effort dans le 7e arrondissement avant 10h, aujourd'hui, ils auront la possibilité de poursuivre leur mise à l'abri pour le dispositif d'aide au départ. Voilà, là-bas, un agent de l'OFI les attendra pour envisager les différentes possibilités. Ça, c'est à quelque chose près le contenu de la lettre remise aux familles par l'agent de l'OFI. Alors, vous imaginez bien qu'on parle là de familles pour la plupart albanaises, qui ne parlent pas forcément hyper bien français, qu'ils le lisent encore moins, qui doivent prendre une décision. Alors on ne sait pas à quelle heure le courrier a été donné, mais on imagine, allez, on va dire 8 heures pour être sympa, que le courrier a été remis à 8 heures, qu'elles doivent prendre une décision dans les 2 heures qui va concerner leur futur immédiat. Que voilà, en gros, les familles ont le choix entre finir à la rue ou se dire que peut-être une solution sera trouvée si elles arrivent à lire entre les lignes, si elles captent pas forcément que quand même dans le courrier il y a dispositif d'aide au départ, hein, ce qui voilà, si elles sont pas spécialement suivies par des gens, des militants, des associations qui peuvent leur mettre la puce à l'oreille en disant ça c'est un peu bizarre comme ça a été fait par certaines familles. Voilà. Donc clairement il s'agit d'une souricière, hein, comme le dit un militant qui suit une famille. Les familles sont là pour 45 jours. Quand elles arrivent, elles ont, donc ça c'est toujours ce militant qui nous raconte ça dans un article, dans l'article de rue 89 Lyon, hein, qui parle de ce truc-là. Quand elles arrivent, elles ont un entretien avec l'agent, avec un agent de l'OFI. Par exemple, ce militant a accompagné une des familles avec donc avec une autre personne qui parlait, il me semble de mémoire que c'était une famille bosniaque, avec une personne qui parlait bosniaque et français, voilà. Comme ils ont l'habitude de le faire ensemble, parce que souvent là, faut traduire pour, j'imagine, pour aller à la CAF, hein, pour tout un tas de trucs administratifs. Donc voilà, lui il s'est dit bon bah ça va la faire comme d'habitude, on se pointe là avec la famille, leur pote qui traduit un peu, moi, et puis comme ça on arrive à démêler un peu le truc quoi. Et ben pas du tout, non, là c'est quand même c'est pas l'ambiance. Donc lui s'est retrouvé face à un refus clair et net de l'agent de l'OFI ainsi que le traducteur. Dans le bureau seul un traducteur officiel était prévu, donc l'agent de l'OFI et les familles. Pour la préfecture, voilà, l'idée est claire, de choper un maximum les déboutés, de les faire rentrer dans ce centre par chantage et de les expulser, enfin plutôt, comme ils disent, de les accompagner à leur retour, voilà, et avec l'idée de que c'est eux qui gèrent le truc, pas de personne qui pourrait les aider et qui pourrait éventuellement les éclairer sur un possible truc un peu dégueulasse qui est en train de se passer. La famille en question que le gars suivait est sortie en disant nous on signera pas ça sans l'entourloupe de votre truc. Ils ont eu du nez. Mais voilà, donc si les personnes refusent, elles peuvent dire adieu au recours en justice et seront considérées devant le tribunal administratif, hein, parce qu'il y a déjà une famille qui a fait un recours, comme des personnes ayant déjà refusé une solution proposée. Donc comme là on parle de débouté, c'est pas des recours d'ALO mais des recours d'AO, alors c'est un peu technique, c'est pas droit au logement opposable mais c'est droit à l'hébergement opposable, qui considère que théoriquement aucun être humain n'a à dormir dehors, qu'il ait quelle que soit sa situation administrative, sauf que les tribunaux ont restreint un peu ça par la jurisprudence, et que si en fait on est sans papier, bah on n'a pas non plus vocation à, comme ils disent, saturer les hébergements, hein. Voilà. Voilà. Et du coup, pour l'instant, si une personne se retrouve, refuse ce dispositif, donc refuse de se faire expulser, par chantage, voilà, elle aura pas de recours ou peu de recours, en tout cas pour l'instant. Et comme c'est un dispositif, en test. Pour l'instant, on espère un peu que nombre d'avocats vont quand même continuer à aller au tribunal administratif, continuer à faire des recours et tout, pour espérer des décisions différentes et espérer une jurisprudence qui s'adapte à ce nouveau truc pour lequel les jurisprudences ne correspondent pas. Bon, je ne suis pas spécialiste en droit, mais je me dis qu'il y a peut-être une chance qu'au niveau de la justice, ça change là-dessus. On ne se fait pas beaucoup d'illusions, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, la doctrine de ce dispositif, hein, comme le dit le directeur de l'OFI, c'est, je cite, on ne force pas les gens à rentrer chez eux, c'est leur propre volonté qu'il s'agit.
Oui, mais ça, c'est ce que. Oui, le chantage, quelque part, c'est une décision qui est prise par soi-même, bien sûr. Voilà, c'est tout à fait vrai, oui.
Donc voilà, donc ça, c'est à peu près le genre de solution qui a été créée. Hein, donc à Lyon, c'est un dispositif qui était déjà en test en Moselle. Alors, j'ai pas eu le temps de voir ce que ça avait donné, mais voilà. Et voilà. Et à côté de ça, on a quand même à Lyon un maire et un préfet qui refuse d'ouvrir un deuxième gymnase hein, parce que les températures n'avoisinent pas assez.
Il faut qu'on soit à moins 75 pour qu'éventuellement ils acceptent d'ouvrir ce putain de deuxième gymnase. Je crois qu'il y a un article dans les Rébellions qui résume un peu l'aspect dégoulinant de la situation. Et voilà quoi.
Exactement, il y a un article du coup dans Rébellion qui a été fait par les professionnels de l'urgence sociale. Où en gros clairement ils disent que le maire de Lyon Gérard Collomb a refusé l'ouverture d'un deuxième gymnase. Ce à quoi comme quoi des fois des gens ils montent au créneau pour ça. Après suite à cet article il y a eu tout un tas de réactions de soutien de Gérard Collomb, d'adjoints, bref tout un tas de gens pas très intéressant pour dire c'est pas vrai, c'est pas Gérard Collomb. De toute façon, Gérard Collomb n'a pas autorité là-dessus. C'est la préfecture qui gère le plan froid. Sauf que là où c'est très malhonnête de leur part, c'est que le préfet, oui, c'est lui qui a l'autorité là-dessus, mais s'il le fait, c'est dans une réunion que ça se décide, réunion où Gérard Collomb est, où Gérard Collomb a émis un avis négatif. Avis négatif qui a été suivi par la préfecture. Alors, certes, c'est la préfecture qui a pris la décision, mais elle l'a pris conjointement avec le maire de Lyon. Ils se défendent qu'il n'y a pas assez, il y a assez de gens qui sont hébergés, qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont à la rue, que les gens qui sont à la rue, c'est parce qu'ils refusent les gymnases, bref, le truc habituel de chaque hiver. Sauf qu'on le rappelle, au début de l'hiver, il y a quand même un type qui est mort place Bellecour, ça a ému une journée et demie dans les médias, pas plus. Et qu'il n'y a pas non plus besoin d'être mort pour que ce soit juste ignoble de dormir à la rue par ces températures, comme l'été, comme l'hiver.
Voilà, et plutôt que de parler de ça, on parle de GG. Gérard Collomb, on parle de GG sous un autre dossier, sur un autre dossier. GG qui a expliqué que il était souvent absent au Sénat. Mais très souvent absent au Sénat. Alors on lui pose pas la question, excuse-moi GG, mais pourquoi t'es sénateur si tu vas pas au Sénat ? Et donc, GG, ils lui ont retiré, parce qu'il y a un nouveau système qui fait qu'en fait, si tu vas pas au Sénat, on te retire tes brosouf, quoi. Donc, on lui a retiré Et on lui a retiré les brosouf, et résultat, il se retrouve, il le dit, dans une situation, j'ouvre les guillemets, cauchemardesque, il se retrouve avec plus que 4000 euros pour vivre. Donc c'est peut-être que lui, il risque de se retrouver également à la rue de son 170 000 mètres carrés. Avec ses 4000 euros.
Alors peut-être qu'on peut lui préciser qu'il ne faut donc pas qu'il rêve. Quand on parlait d'hôtel tout à l'heure, il s'agissait bien d'hôtel mythe, qu'il ne pense pas du tout qu'il va être relogé au Sofitel s'il se retrouve dans une situation compliquée. Si on parle d'hôtel, on parle bien d'hôtel miteux avec de la tapisserie en moquette, ce genre de truc quoi.
Et on se déplace de Lyon à Villeurbanne avec un petit truc sympa que j'ai vu dans la rue. Il y avait une énorme affiche avec marqué ceci, la Coupe d'Afrique des Nations totale en exclusivité sur beIN Sport cet hiver, ne tremblez pas, vibrez. Alors, quand vous lisez la Coupe d'Afrique des Nations totale en exclusivité sur beIN Sport, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont un petit peu... on peut les prendre de façon un peu comique, quelque part.
Quand tu dis la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire la totalité de la Coupe d'Afrique des Nations ?
Alors, non, totale, la Coupe d'Afrique des Nations totale, c'est en référence avec le pompiste. Vous voyez, la super grosse multinationale qui s'occupe donc du pétrole et qui est donc française. Alors, on se dit, attendez, quel est le problème ? Étude de texte. Étude de texte, Coupe d'Afrique des Nations totale. Alors déjà, on voit dans la même phrase, Afrique est totale. Et là, on s'étrangle puisque il y a quand même un lien très fort, effectivement, entre l'Afrique et totale. Et c'est principalement des choses qui sont liées à plusieurs des décennies de France-Afrique. Alors, vous pouvez faire un petit test. Par exemple, vous allez sur le site de Survie. Survie, c'est donc une association qui scrute un petit peu les relations entre la France et l'Afrique et qui dénonce très justement la France-Afrique, c'est-à-dire le fait que la France va utiliser, va faire quoi que ce soit en Afrique, non pas en regardant les intérêts de l'Afrique et des Africains, mais en regardant les strictement intérêts franco-français et financiers français. Alors vous tapez sur Suvi dans le mode recherche, vous regardez s'il n'y a pas des articles qui concernent Total. Et là, vous avez 46 articles qui tombent. Vous en avez un, par exemple, qui date du 7 avril, qui s'appelle « Total ». Opaque. Vous avez un article de 2003 qui parle de Elf, le sang de l'Afrique derrière les caisses noires offshore. Bref, quand on voit cette histoire de Coupe d'Afrique des Nations Total, franchement, on s'étrangle. Alors, je vous propose de vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi Total rime avec France-Afrique, rime avec, avec sang, faut le dire, S-A-N-G. Alors, quand même, en l'an 2000, Elf Aquitaine et Total Fina ont fusionné pour donner naissance à un géant pétrolier qui s'appelle Total. Et du coup, Elf, disons le mot elf, le nom elf a disparu, et se trouve c'est quand même Elf qui s'est distingué dans les années, dans les décennies précédentes par rapport à sa propension à être mouillé dans des affaires de corruption, dans des affaires de trafic d'armes, de détournement de fonds. Bref, Total c'est aussi donc Elf. Alors Elf hier, Total aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un vaste système de perpétuation du colonialisme hein, sous d'autres formes par le biais de réseaux semi-mafieux. Et on va un petit peu en parler. Alors dans les années 60, c'est le général de Gaulle qui a créé Elf avec un seul objectif, eh bien, c'est de défendre les intérêts des grands groupes français après la perte du, entre guillemets, bijou algérien. Parce qu'en Algérie, il y avait aussi énormément de pétrole et donc on venait de perdre l'Algérie et donc de perdre tout ce pétrole. Donc Elf est créé et puis, eh bien, Elf a été mouillé dans plein d'histoires, dans plein de pays africains. Et je te mets au défi de me trouver, de m'énoncer des pays africains et je suis sûr que je peux te sortir une peau de banane liée à Elf et à Total.
Et bien si on allait faire un tour du côté du Maroc.
Alors tu commences par, par le Maroc. Alors le Maroc, c'est plus exactement du Sahara occidental dont on va parler. En fait, Total, donc plus Elf, en 2002, il a signé un contrat de prospection pétrolière avec la monarchie autoritaire marocaine pour aller voir ce qui se passe dans le Sahara occidental. Je vous rappelle que le Sahara occidental, c'est une bande qui est occupée de façon complètement illégale, une bande de terre hein, immense, une bande de terre complètement illégale par le Maroc. Alors, c'est l'ONG Western Sahara Resources Watch qui a dénoncé dans un rapport de 2013, en fait, il a dénoncé les agissements de Total au Sahara occidental en parlant d'un non-respect absolu des populations locales, sous-entendu cette prospection pétrolière en écrasant disons, les intérêts de ces populations locales du Sahara occidental. Allez, un autre pays.
Le Cameroun.
Ben, le Cameroun. Cameroun Total s'est officiellement retiré du Cameroun en 2010, mais pendant très longtemps, le pays a été, donc le Cameroun, a été une des bases africaines pérennes avec le Gabon, dont on parlera après, d'Elf et puis de Total. Alors, ça a été un pays qui a été gouverné depuis 1960 par deux dictateurs absolus. Alors, justement, 1960, il y a un nouveau dirigeant qui est installé par Paris, qui s'appelle Hamadou Haïdjou. Et lui, il est contesté par une rébellion marxiste dès son arrivée. Eh bien, la France va alimenter une répression féroce entre 1960 et 71. Et la rébellion est matée avec un coût énorme, un coût humain exorbitant qu'on ne saura jamais évalué. Et ça, Elf avait été dans l'histoire pour que, en fait, ce nouveau dirigeant reste ici et ne puisse pas être contesté par cette rébellion marxiste. Après, il y a Loïc Le Floch Prigent, qui était l'ancien PDG de Elf, qui nous a dit que c'était Elf lui-même qui avait choisi le suivant, donc le dictateur suivant, l'actuel président camerounais, Paul Biya. Donc Elf avait les mains complètement mouillées dans le Cameroun.
Le Nigeria.
Allez, le Nigeria. La guerre du Biafra, ça vous dit quelque chose? C'était malheureusement 2 à 3 millions de morts. En fait, c'est une partie du Nigeria qui a voulu faire sécession. Et il se trouve qu'en fait, eh ben, les choses n'étaient pas complètement fortuites. Il y a plein de choses compliquées autour de la sécession du Biafra, mais il faut savoir que le Biafra abritait l'essentiel des champs pétroliers. Et la France du général de Gaulle s'est mise en tête de soutenir la sécession. Parce qu'en fait, la sécession, c'était par rapport au Nigeria, qui était dans l'empire colonial britannique, et elle, Elf, s'est dit, bah tiens, on pourrait récupérer tout ce qui est du côté des champs pétroliers, au travers de cette sécession, qui pourrait donc passer du côté des affinités françaises. Alors, avec l'argent et la logistique d'Elf, Paris a fourni armes et mercenaires afin d'aider à détacher du géant anglophone sa région pétrolifère.
Si on allait au Gabon.
Alors le Gabon, entre parenthèses, la Coupe d'Afrique des Nations, elle a lieu au Gabon. Et le Gabon, dans la série ultra corrompue et étendard numéro 1 de la France-Afrique, c'est comme ça. Donc l'action de la France-Afrique au Gabon commence en 64, donc toujours on parle de Total, de Elf, quand le président Mba est renversé par un coup d'État. Alors il y a plein d'illustres français, dont en particulier M. Guillema, qui est le président de l'ancêtre d'Elf, qui décide de le réinstaller au pouvoir. Donc il a été viré, mais il est réinstallé au pouvoir. Parce que ça servait mieux les intérêts de Elf en l'occurrence. Et puis Omar Bongo, qui est président à partir de 67, qui est encore l'actuel président, donc qui est carrément un dictateur, lui c'est un ancien des services secrets français, et il devient l'homme de paille des services secrets français, et du coup le Gabon devient une base arrière de tous les mauvais coups de la France, du Nigeria au Congo, et puis du coup ça facilite un petit peu l'exploitation par Elf du pétrole du côté du Gabon.
On va au Congo ?
Allez, Congo. Tu vois, hein, énumérer, on y est. Hein, Total, Elf. Et ben Elf a soutenu Denis Sassou Nguesso de 79 à 1991. Voilà, c'est un dictateur qui était... Donc c'est l'ancien président de Elf qui dit que c'était un dictateur sous contrôle d'Elf. Donc, Sassou Nguesso, il a fait des réformes progressistes financées par un pétrole qui était certes nationalisé, mais énormément dépendant des contrats d'Elf. Et puis pendant ce temps, son peuple s'est complètement enfoncé dans la pauvreté. Voilà, on peut se décaler à un autre pays, tiens.
Allez, l'Angola.
L'Angola, on a entendu beaucoup parler de l'Angola Gate, c'est un circuit français de trafic d'armes, de détournement de fonds, voilà, qui a alimenté la guerre civile angolaise. Et puis, tout ça, c'était lié aussi à des activités de Elf. Et aujourd'hui, l'Angola reste une des principales sources de profit du groupe Total, qui est dans les petits papiers du dirigeant autoritaire et corrompu, Eduardo dos Santos. Voilà, donc Total, qui est toujours présent, qui ferme les yeux sur des choses. Allez, on accélère. Total est aussi présent du côté du Soudan. Il y a eu le Soudan du Sud qui a été créé, l'indépendance du Soudan du Sud, sauf que le Soudan du Sud, c'est là où il y a le pétrole. Et en fait, eh bien, Total bénéficie de largesses invraisemblables de la part du nouveau gouvernement du Soudan. Si on va du côté de la Libye géant régional du pétrole, eh bien, la Libye sous Kadhafi, eh bien, elle donnait 15% du pétrole à Total. Et du coup, Total trouvait que c'était quelque part pas assez. Il est probable que Total a été parmi les acteurs qui ont poussé la France à intervenir militairement en Libye afin de prendre une part plus grande du gâteau pétrolier. On se souvient par exemple que le Conseil national de transition libyen avait promis 35% de son pétrole à Total, évidemment. Voilà. Mali, Centrafrique, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des intérêts peut-être un peu moins juteux de Total derrière la guerre ? Bref, on s'étrangle, je vous le répète, à voir que la Coupe d'Afrique des Nations s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations Total. Voilà, c'est donc une invitation de Radio Canu à aller explorer les méandres de la France-Afrique et des méandres de nombreux aspects dégoulinants de la présence de Total en Afrique.
Et c'est peut-être le moment de s'offrir une petite pause musicale.
Avec ma crête sur la tête, mon bison noir en peau de bête, mes creepers rose, mon tympano, je voudrais trouver un flow. J'espère de rencontrer la sœur en m'inscrivant chez ma couleur et tomber sur un peu trop cool. J'ai dit j'aurais pas trop la boule. Et puis un jour ils m'ont appelé. Par deux murs de barres.
comme un jet. J'avais trouvé un plan d'enfer quand ma tête est tombée par terre. Le jour après, c'était que moi. Puis le lendemain, mes deux bras. C'est pas longtemps, j'ai réversion. J'ai appuyé ma réflexion. Déjà que j'avais pas mon rêve de ressembler à un skinhead. Je vais aller voir la direction pour causer revendication. Dire on va les séparer. C'est qui à me rassurer. Tout en regardant dans mon l'air. Pas de mauvais sang, il est normal de pertinent. Et alors pourquoi passer pas? C'est la nature qui veut ça.
Dans chaque action directeur, l'avenir me fait un peu peur. On est qui dans les poumons, par les charbons à l'eau.
Il répondit, ne flippez plus, maintenant il y a la statue. Vous aurez le jour d'hypothèse, avec lesquels vous serez à l'aise. Il est parti en siffleur, les gens sont qui parlaient plus lent. Dans la marche, leur donne les gens, quand je n'ai que les poumons.
Et vous venez d'écouter les rats avec le titre qui s'appelle, qui s'appelle Poubelle trouve un job et qui se situe dans l'album Tequila. Et alors là, on quitte nos poubelles et on va du côté de la Norvège et depuis aujourd'hui, tiens.
Allez.
La Norvège enterre plutôt ses ondes FM. Alors non, la radio ne s'arrête pas complètement en Norvège, enfin si, pour une partie des gens quand même. Elle remplacera ses ondes FM par une version digitale. Décision qui n'a pas fait l'unanimité dans le royaume, hein, débat qu'on a aussi en France. Voilà. Alors maintenant, ce ne sera plus de la FM, hein, ce sera du DAB pour Digital Audio Broadcasting. L'objectif, alors affiché, hein, mais vraiment telle une publicité pour des vêtements. Alors c'est d'obtenir une meilleure qualité de son et davantage de stations radio. Voilà, donc problématique à laquelle ici nous sommes plusieurs fois intéressés.
Ouais, Canus s'est battu dans les années précédentes contre ce passage au digital qui avait été envisagé pour la France pour de nombreuses raisons. Déjà, la FM, c'est une radio de proximité. Vous pouvez acheter quelque chose qui coûte 2 euros, qui peut vous permettre d'écouter la FM. Il faut savoir quand même que du côté de la Norvège, le premier appareil qui permet de capter cette radio digitale, le DAB, il fait 167 euros. Donc c'est, voilà. Et puis imagine le coût écologique de flingos toutes les, on va dire, les millions, je pense, les millions d'appareils qui captent la FM pour les remplacer par des appareils qui permettent d'avoir la qualité digitale.
Ouais, ça doit être énorme, sachant que, alors je sais plus, en moyenne, je crois, en France, par exemple, le nombre de récepteurs FM par foyer, je me demande si c'est pas 3, 4 ou 4, 5, enfin, je veux dire, même avec les trucs numériques et tout, je veux dire, les gens sont encore hyper attachés à la FM.
Tout à fait. En plus, une autre problématique, c'est que, effectivement, c'est l'idée de pouvoir mettre plus de chaînes sur cette radio digitale, mais la vraie idée derrière, c'est que certaines grosses radios, disons, lucratives, du monde capitaliste veulent étendre leur couverture et pouvoir en fait infiltrer des zones où ils n'ont pas de présence. Alors par exemple Canu, que deviendrait Radio Canu qui est une radio locale dans un océan de 160 radios qui seraient à disposition des auditeurs et des auditrices. Voilà donc un ensemble de choses qui font qu'on est contre la digitalisation de la radio FM et c'est de nouveau un combat qui a été mené par Canu et on n'a pas suivi. On a refusé, et sauf qu'ils ont entre-temps reculé, et donc l'AFM survit et survivra du côté des terres lyonnaises.
Ouais, et il semblerait que même ça survive un paquet de temps, parce que déjà il y a toutes les petites radios comme nous qui s'y sont opposées, parce que niveau coût ce serait un changement de matos énorme et ce serait très compliqué pour plein de radios de pouvoir suivre financièrement, que certaines grosses radios on dise non mais votre truc là nous on n'en veut pas, ça pue, ça sert à rien, ça va coûter du pognon pour rien, voilà, on reste là-dessus, ça marche. Et aussi un des trucs c'était d'étendre les stations, mais il y avait aussi l'idée de pouvoir étendre, c'est-à-dire qu'avec l'AFM on peut entendre des voix et globalement c'est à peu près tout sauf avec leur DS, là il y a le nom de la station qui peut s'afficher, voire le nom de la chanson, mais avec le truc de la radio numérique il y avait aussi l'idée de peut-être pouvoir alors sur les récepteurs du coup numériques pour la radio il y aurait peut-être des petits écrans, alors du coup peut-être sur ces petits écrans on pourrait éventuellement passer aussi un peu de publicité ou des trucs comme ça, enfin voilà, du coup ça faisait tout un tas de raisons pour lesquelles s'y opposer et on continuera à s'y opposer.
Ils ont cédé en Norvège, on ne cédera pas en France. Allez, on va parler liquide. Je vous propose de parler d'eau et de vin. Et on va d'abord parler d'eau et on va surtout bien rigoler. Alors, c'est dans Libé que j'ai trouvé ça. Libé, un journal de gauche. Voilà. Ok. Alors, ils ont fait un forum quand l'eau révèle le monde. Blablabla. Avec donc pas mal de monde qui s'exprime. Hein. Et puis, il y a un article, une espèce d'éditorial, par Antoine Frérot. Alors, je te le montre. Le titre, c'est L'eau, un bien commun comme les autres. Il a l'air sympa, hein, tu vois.
Ah, belle cravate, ouais, belle chemise, beau costume.
Non, mais
ouais.
Il a plutôt l'air sympa. Il a un joli sourire. Et donc, on lit, hein, donc, toujours dans cet article proposé par Libé, suite pour son forum Quand l'eau révèle le monde. Blablabla. Reste un point essentiel, rendre ce bien, l'eau, hein, ce bien commun accessible à tous. Actuellement, 660 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 2 milliards, blablabla. Donc, en fait, c'est attendrissant. C'est un petit article de ce monsieur Antoine Frérot qui nous donne quelques larmes par rapport à ce bien commun comme les autres. Alors, on rigole. Antoine Frérot, c'est le PDG de Veolia.
Ah.
Et donc il y a un gros. Alors je répète quand même ce truc. Il y a un magnifique titre qui vient de chez les Bisounours dans ce journal qui s'appelle Libération, qui est plutôt de gauche.
Gauche parti socialiste.
Et qui laisse avec ce magnifique sourire la place à des balivernes du PDG de Veolia. Alors bon, Veolia, si on va voir ailleurs, Veolia, c'est quand même une grosse multinationale qui s'est fait jeter de Paris, par exemple, parce qu'il y a un retour. Il y a un retour à la... Donc on déboute les entreprises pour la gestion de l'eau, pour les délégations de services publics. Il y a un retour au service public de l'eau. Ça se voit du côté de Paris. Ça se voit également du côté de Grenoble, avec la mise au point de comités de suivi de l'eau, des espaces citoyens un petit peu de partout. Bref, il y a quand même un retour à la gestion publique de l'eau. Je vois par exemple à Berlin, ils ont Tej Veolia. Paris, ils ont Tej Veolia. Je sais que du côté de l'Amérique du Sud, il y avait une grosse présence de Veolia parce qu'en fait, c'était pas du tout dans la culture de l'Amérique du Sud d'aller privatiser l'eau. Ben, ils se sont bien présentés, Veolia, hein, et non pas pour faire des choses de bisounours, mais pour faire du profit.
Mais pourquoi ce retour dans toutes ces villes, c'est parce que contrairement à ce qu'on nous vend toujours, la privatisation, ça va vous faire payer moins cher les trucs parce que mise en concurrence, du coup, qui dit mise en concurrence dit baisse des choses. Et ben pas du tout. Là, toutes les études montrent qu'à chaque fois qu'il y a eu privatisation de l'eau, le prix de l'eau a augmenté pour le consommateur.
Voilà.
Donc voilà. Mais ne rêvez pas, je crois qu'à Lyon, on est très loin d'une telle prise de décision du côté de.
Entre Veolia et puis les décideuses de la métropole, c'est bien connu. Alors, juste quand même pour citer ce que nous dit une spécialiste, c'est la présidente de l'opérateur public de l'eau de Paris qui nous dit. Beaucoup de collectivités se sont dit que maintenant c'était le moment de repartir contre le fait que les prestataires de l'eau en fait font ce qu'ils veulent, et donc visiblement les rapports de force se sont inversés avec des remunicipalisations proprement dites, et puis il y a même s'il n'y a pas de remunicipalisation, il y a des grosses inversions de pression entre la Veolia par exemple, et puis les municipalités qui demandent à ce que les contrats leur soient beaucoup favorables. Donc, beaucoup plus favorables. Voilà, donc un mouvement qui se propage. Toujours est-il que le patron de Veolia se cherche une respectabilité en sortant des articles un petit peu dégoulinants. Et donc, juste un petit clin d'œil pour parler de l'eau et puis ensuite parler du vin. Juste une initiative que vous pourrez découvrir en long, large et en travers dans un article de nouveau sur Basta qui s'appelle « Zéro pesticide, travail collaboratif, permaculture ». Le pari réussi d'un collectif de vignerons anonymes. Alors, effectivement, c'est du côté donc de Banyuls. Voilà. Il y a un collectif anonyme qui s'appelle Anonyme, hein. Qui a un superbe drapeau, en fait, le collectif anonyme. Donc, leur drapeau, c'est, je te le montre, en fait, c'est un tire-bouchon.
Si on avait la radio numérique, peut-être qu'on pourrait le montrer.
Voilà, exactement. Alors, c'est un tire-bouchon qui est légèrement penché, et en fait, il forme une espèce de A de anarchie.
Ah.
Et donc, en fait, ce reportage, vous pouvez retrouver dans son intégralité, de nouveau sur Basta, eh bien, parle de ces gens qui ont voulu monter sur un esprit collaboratif, une façon de faire du vin sur un sol schisteux dont ils protègent de l'érosion par la présence du gazon, avec l'idée de faire appel à du désherbage manuel, absolument pas de produits chimiques dedans, et puis vraiment un collectif qui marche comme un collectif. Donc ils s'appellent Anonymes parce que leur vin et leur pratique en fait les représentent tout simplement, et que la structure alors ils le disent, hein, j'ouvre les guillemets, la structure collaborative les protège contre les hiérarchies et le patriarcat. Certains sont devenus vignerons, vigneronnes par accident. En tout cas, ils ont, j'ouvre les guillemets de nouveau, préféré l'autogestion plutôt que de continuer à travailler pour quelqu'un d'autre. Voilà, leur vin s'appelle Bowie, comme Bowie. voilà, il y a le Red Rum. Bref, des noms qui ont été choisis avec des superbes étiquettes. Bon, seul bémol, et c'est pas forcément un bémol. Seul bémol, les vins sont assez chers, mais de nouveau,
ils sont dégueux.
Non, je ne les ai pas goûtés. Je pense qu'ils sont bons, mais les vins sont assez chers. Mais il faut pas oublier que quand on paye le prix, le vrai prix d'un travail clean, et ben parfois c'est plus cher que du vin de supermarché qui est fait en de façon un petit peu productiviste. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil entre l'eau et le vin.
Et puis, après, ça c'est le genre de truc de fête. Des fois, on ne peut pas acheter la bouteille, mais après, c'est aussi le genre de truc où plus ça a tendance à généraliser, plus les coûts vont baisser. Voilà.
Et on termine par un conseil de lecture, le conseil de lecture du Canu Info.
Mais il te faudra un jingle pour ce conseil de lecture.
C'était ça le jingle.
Ah pardon, excuse-moi,
j'étais moi-même. Donc je te le refais. Le conseil de lecture du Canu Info du mercredi. Le voici. Il s'agit d'aller jeter un œil, particulièrement ce mois-ci, à CQFD, le
journal mensuel.
L'excellent journal qui est marseillais. Voilà, qui est un des rares, il en existe,
papier,
hein, mais un des bons journaux papier que l'on peut acheter dans pas mal de presse. On peut le retrouver évidemment à la griffe, mais en tout cas dans quelques magasins de presse, on peut les retrouver. On peut également s'abonner, et depuis peu, on peut s'abonner de façon internet en mettant, avec la possibilité de faire des virements, voilà, donc ça peut simplifier les choses.
Et même, par exemple, si ça vaut le coup de le préciser, parce que je trouve que c'est très très classe de leur part. Si vous êtes actuellement incarcéré dans une prison lyonnaise, si vous nous écoutez, j'imagine, vous pouvez recevoir CQFD de manière gratuite, parce que c'est gratuit pour les détenus.
Voilà, donc vraiment un journal à recommander. CQFD, quand même, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément au fait des mathématiques, ça veut dire ceux qui finissent la démonstration, et c'est un carré noir qu'on met à la fin d'une démonstration qui dit tout simplement on arrête là ce qui finit la démonstration. En tous les cas, c'est autre chose. Ouais. Et le journal ce mois-ci est entièrement tourné vers la musique, et de façon très élégante. Et il y a un paragraphe, enfin plus exactement quelques pages, sur les musiques entre guillemets noires ou afro-américaines, même si c'est toujours un petit peu décrié d'appeler ça les musiques noires, et ils en parlent. Et ils parlent de ces musiques qui ont été élaborées au sein des diasporas, des Africains, des importés, en tout cas sur le continent américain ou dans les Caraïbes, en tout cas des musiques de résistance, et ça vaut le détour, même si parfois vous êtes peut-être plus orienté punk ou orienté je sais pas moi, rock'n'roll ou des choses comme ça, même si l'origine du rock'n'roll est dans le blues, et le blues c'est aussi une musique qu'on qualifierait de noire. Bref, il faut probablement s'ouvrir sur ces musiques, et donc ça peut être une bonne façon de le faire à la lecture de ce journal, sachant que les articles sont en ligne un par un sur cqfd-journal.org.
Eh bien, il est 19h56 et ce Canu Info touche à sa fin. Peut-être juste le temps de... je sais pas comment on a le temps, on peut faire un tout petit peu de pub. Par exemple, on pourrait dire que la Caisse de solidarité de Lyon existe, que c'est toujours bien de leur donner de l'argent. Pour cela, plusieurs moyens. Vous pouvez taper Caisse de solidarité Lyon dans un moteur de recherche et vous allez trouver une adresse où vous pouvez envoyer vos chèques. Il existe le bistrot de la Caisse au 91 rue Montesquieu qui a lieu tous les premiers jeudi de chaque mois, où vous pouvez venir et voilà, et ça permet de renflouer un peu la caisse. Voilà, quoi d'autre, il existe tous les lundis une permanence juridique de soutien aux sans-papiers de 18h30 à 20h à la Lutine, 91 rue Montesquieu. Alors, permanence de soutien aux sans-papiers, mais c'est aussi, c'est un titre un peu biaisé, parce que si vous avez des papiers et que vous avez des problèmes administratifs qui concernent votre situation en France, eh ben vous pouvez aussi y aller, hein, c'est pas du tout fermé. Voilà, donc il y a des gens expérimentés qui pourront répondre à vos questions, ou en tout cas vous orienter sur le cas échéant. Voilà.
Voilà, ainsi s'achèvent les quais du info de ce 11, c'est ça ?
Oui, 11 janvier.
11 janvier. On se retrouve mercredi prochain.
Et le temps pour nous de vous laisser avec 3 minutes de bande continue, le temps de laisser place à Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Vous êtes bien sur Radio Canu. Bonsoir.
Bonsoir.